Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ben, merci d'être là pour cette soirée, pour essayer de parler de, comment dire, de Petit, le prix de la meilleure BD des Utopiales de l'année dernière. Voilà. En présence des auteurs, Bertrand Gatignol, dessinateur, qui était venu, je crois, il y a 13 ans aux Utopiales. Hein, Bertrand ? T'étais venu déjà il y a 13 ans ?
J'étais venu il y a 13 ans, oui, aux Utopiales. Ouais. C'est la première fois que je venais.
Ouais, d'accord, déjà, tu trouves que ça a quand même bien changé, non ?
Oui, c'était pas pareil.
C'était pas pareil. Et puis Hubert, qui est scénariste, raconteur d'histoires, comment on peut te définir finalement ?
Scénariste, ça me va bien.
Scénariste
Et coloriste à l'origine.
Ouais, ouais, t'étais coloriste à un moment, ouais. Et puis dans
toujours,
Petit, quand
non,
tu...
non, toujours.
Ouais. Et puis dans l'album, comment tu te dis quand même, tu te définis comme raconteur d'histoire, quoi.
Oui, 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 bien sûr, parce que en même temps, la particularité de Petit, c'est que c'était un peu une première pour moi. C'est un peu une espèce de livre mix, puisque c'était la première fois où j'étais un peu tout nu avec des vrais textes publiés, et c'était un peu une nouveauté pour moi.
Donc, peux-tu nous raconter la jeunesse de Petit, un peu, Hubert ? La jeunesse. Comment t'es venue cette histoire ? Parce que c'est une histoire qui est en partie bande dessinée, mais qui est en partie texte.
Oui,
comment,
tout à fait.
Toi, d'où es-tu parti pour construire ton histoire et l'inventer, quoi ?
Alors, une histoire, ça part souvent de plein d'envies différentes qui se rencontrent. Il y avait en fait déjà l'envie de retravailler sur un genre littéraire que j'aime beaucoup, et mes premières bandes dessinées avaient pas mal de références à ça. C'est le ce qu'on appelle le roman noir ou roman gothique. Pour citer des titres célèbres pour les amateurs de romans gothiques, puisque c'est quand même un petit peu ésotérique, c'est Gormenghast de Mervyn Peake, Les Chants de Maldoror par exemple, Le Manuscrit trouvé à Saragosse. Et voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu quand j'avais une vingtaine d'années. Et après, il y a des événements plus personnels, puisque au moment où j'entamais ce livre, ma mère est tombée malade. Et comme dans beaucoup de familles, il y a plein de choses qui sont un peu cachées dans les... Il y a des cadavres un peu dans les placards. Et donc, à l'occasion de cette maladie, j'ai découvert énormément de choses qui m'avaient été cachées en tant qu'enfant et qui expliquaient plein de questions que je m'étais posées sur moi-même. Et c'était...
Ouais.
Donc on va arrêter, en fait, les gens qui sont là pour Damasio.
Ah, d'accord, oui, donc c'est pas l'un Damasio.
Non, on est bien d'accord. Hein. Donc, ouais, je pensais que le changement de programme avait été annoncé, moi. Hein. C'est pour ça que...
Mais donc, on peut peut-être les... Est-ce que la conférence d'Alain Damasio a été déplacée ou annulée ?
Je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse
parce
à la question.
Je serais très content d'aller à la conférence de Damasio aussi, ouais, personnellement, mais...
Donc on m'a prévenu ce matin qu'il y avait un changement de programme et qu'on parlerait de Petit aujourd'hui, quoi.
Voilà.
Ben voilà. On s'en excuse auprès de vous. Hein, donc on s'excuse de ce changement. Mais voilà.
Oui, donc est-ce qu'on continue ? J'ai été coupé dans.
Vous vouliez. En fait, vous étiez là pour voir Alain Damasio.
Bon. S'il n'est pas là.
On peut continuer, mais ce serait pas. Voilà, c'est comme vous le sentez, quoi.
Oui, tout à fait. On s'en fout. On continue, ok.
Bon, bah alors,
voilà.
Au moins une personne de contente, ça nous fait plaisir. Donc, et comme je disais, en fait, il y a eu des événements personnels, puisque suite à la maladie de ma mère, il y a eu énormément de choses que j'ai découvert. Et il y a eu ce sentiment tout d'un coup de finalement d'être une espèce de petit robot programmé par des tas d'histoires dont j'avais même pas conscience dans beaucoup de cas et qui appartenaient en fait au passé, aux générations précédentes. Et tout d'un coup il y avait même cette idée, est-ce que j'ai même un libre arbitre finalement ? Est-ce que même en ayant eu un comportement un peu, on va dire, rebelle en étant adolescent, est-ce que même ça finalement c'était pas presque une programmation par des générations précédentes, par des secrets, et c'était assez vertigineux. Et c'est là où ce thème en fait de l'inconscient familial et de la façon dont finalement toute une histoire familiale peut déterminer l'identité d'un individu est né et a été vraiment à l'origine de cette histoire. Et donc, comme j'avais quand même ma thématique gothique que j'avais envie de garder, dans le genre gothique, il y a un élément récurrent, qui est la lignée maudite. Et ça me paraissait intéressant pour moderniser le thème de l'inscrire plus dans une optique génétique en fait. D'où effectivement cette notion de consanguinité, d'avoir ce, cette lignée de géants et de pouvoir très visuellement voir s'inscrire cette dégénérescence par une perte de taille. Jusqu'à petit donc qui naît et qui est presque un humain. Voilà, donc tout ça effectivement c'est les éléments qui marinaient, donc j'ai commencé effectivement à manier tous ces thèmes, à avoir des personnages qui naissaient, c'est venu très très vite finalement, et au point que j'ai passé une nuit à ne pas dormir, j'étais dans mon lit à retourner et tout se mettait en place. Le lendemain matin je me suis levé, j'ai griffonné dans un carnet, voilà, et il s'avérait que je venais de changer d'atelier. Et dans ce nouvel atelier, il y avait un jeune dessinateur talentueux qui s'appelle Bertrand Gatignol, qui était en train de finir sa bande dessinée précédente qui s'appelle Peace to Vie, et que je vous conseille d'aller découvrir si vous avez aimé Petit. Et donc Bertrand, lorsqu'on se rencontrait, me dit « Tiens, regarde, je fais ça », donc j'adorais ce qu'il faisait. Et il me dit « bah j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, est-ce que tu aurais des idées ?» Et j'ai commencé à lui raconter cette espèce d'histoire monstrueuse et interminable. Et c'est là où Bertrand m'a dit « J'adore, par contre, j'ai un petit problème, c'est que là, tel que tu me le racontes, on est parti pour environ 700 pages. » Et ça va peut-être poser problème en termes de temps de fabrication et même en termes d'impression. Parce qu'on a, là maintenant, Petit, ça fait quand même 180 pages, c'est déjà un très gros bouquin. Et c'est là où il m'a dit, bon, va falloir un petit peu faire des choix. Moi, le personnage qui m'intéresse, c'est Petit lui-même. C'est lui que j'ai envie de suivre, c'est lui que j'ai envie d'incarner. Mais on peut pas jeter à la poubelle toutes les autres histoires généalogiques qu'il y a autour, puisque de toute façon, c'est un peu le thème central. Et c'est là où il m'a dit, ce serait peut-être pas mal d'en faire des contes illustrés. Et voilà, et de là est née effectivement cette forme un peu particulière, ouais, qui était une contrainte vraiment pour que le livre existe, tout bêtement.
Ouais. Et toi, Bertrand, alors quand Hubert t'a raconté son histoire, qu'est-ce qui t'a séduit dedans ?
Ce qui m'a séduit, c'est les thématiques profondes, pas particulièrement l'univers ou tout ça, mais c'est vraiment les thématiques fortes, psychanalytiques, on va dire, dont j'ai besoin moi pour pouvoir m'investir et passer du temps sur une bande dessinée, parce que vous connaissez la condition d'auteur, on est payé avec des crottes de nez et en plus on doit vivre avec pendant 12 mois, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Donc il me faut vraiment l'implication dans une BD est telle qu'il me faut vraiment des choses il me semble importantes à raconter, et c'est ce qu'il y avait dans Petit. C'est pour ça que ça qui m'a séduit.
Bon, c'est par rapport à la thématique. Alors maintenant, pour cet album, vous avez eu une réflexion sur la forme, parce que vous n'avez pas fait un album classique, ce qu'on appelle même de format classique. Vous avez choisi un format.
Tout à fait, oui.
Vous avez choisi de faire un noir et blanc, mais un noir et blanc assez particulier, parce qu'on n'est pas dans le noir et blanc avec des aplats noirs et des trucs blancs de l'école traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a amené aussi de choisir le noir et blanc, le format, et aussi de mettre des pages de texte, parce que on le voit assez souvent dans l'album, on retrouve par moments, voilà, des histoires aussi, comment on pourrait appeler ça, des intermèdes?
Oui, on aurait appelé ça les contes illustrés, mais effectivement, ces histoires étaient dans la construction, c'est-à-dire pour tout simplement comprendre un certain nombre de décisions de Petit, il fallait comprendre l'univers mental dans lequel il évoluait. Et donc se rendre compte que certaines de ces décisions étaient influencées par toute une mythologie familiale, par des choses qui s'étaient passées dans le passé, par voilà des connaissances qu'il avait. La seule façon de l'expliquer était de raconter ces histoires. Donc y a, du coup cet aller-retour. Et voilà, et en termes tout simplement de place, c'était impossible. Et surtout, ça nous paraissait plus intéressant que finalement ces histoires soient du texte, pour qu'elle garde une autre qualité de réalité que l'histoire principale. Qu'on est vraiment, on est dans le présent, voilà, on vit dans l'émotion du présent, et tout d'un coup, on est vraiment dans un rapport, je dirais, plus abstrait que le texte peut entretenir avec le lecteur, que dans le cas de l'histoire de Petit. Donc voilà, donc ça permettait d'avoir des allers-retours de perception entre les deux. Ensuite, la généalogie d'un projet est quelque chose de très long. C'est-à-dire, on a d'abord commencé par travailler tous les deux ensemble. Alors, d'abord dans des allers-retours sur le travail de texte, parce que j'ai écrit et réécrit et réécrit et réécrit, évidemment, jusqu'à ce qu'on se dise bon, voilà, là, on est sur quelque chose qui est à peu près mûr. On a à peu près réussi à faire en sorte que tout se tienne.
Et à ce moment-là, effectivement, on a cherché éditeur. Et on, en fait, on savait pas encore réellement ce qu'allait être ce livre. Parce qu'effectivement, ça, ce qu'un éditeur nous propose, c'est lui qui va un peu fixer les conditions matérielles de l'objet, d'une certaine façon. Et c'est le moment où on a eu la chance, en fait, de rencontrer nos éditrices. Donc Métamorphose, qui est Clotilde Vu et Barbara Canepa. Et on n'était pas sûr que ce serait elle. On a rencontré plusieurs éditeurs. Alors la majorité des éditeurs ont fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est intéressant, mais c'est vraiment trop trash. On peut pas publier ça, on sait pas quoi en faire. Personne va s'y intéresser. Et Barbara et Clotilde, elles ont fait « Mais vous savez, c'est juste notre fonds de commerce. C'est ce qu'on adore et c'est ce qu'on veut faire. Venez chez nous. » Donc on a été chez elles. Et on a eu la chance donc d'être avec deux éditrices qui nous comprenaient vraiment le projet, qui très vite ont dit « Mais on met pas de couleur, c'est pas possible. Le noir est la couleur de cet album-là, etc. » Et aussi, Clotilde et Barbara sont des amoureuses du livre et du beau livre. Et elles nous ont tout de suite dit « On va faire un objet, mais qui tue. Il va falloir que ce soit sublime. Donc, on y va. Qu'est-ce que vous voulez? On va le faire. » Donc, voilà, ça a été fer à chaud, à l'or, sur la couverture, etc., etc. Et donc, ça a été un vrai plaisir de travailler avec elle parce qu'on sentait qu'on allait tous dans la même direction, finalement.
D'accord. Bon, maintenant, c'est votre éditeur qui vous a imposé le noir et blanc ou c'est...
Non, c'est une discussion.
Non, ouais, c'est la suite d'une discussion avec eux parce que vous,
en fait,
dans votre idée.
Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait des. C'est pas vraiment une discussion, c'est que j'ai commencé à faire des tests. Moi, je suis très à l'aise avec le noir et blanc, c'est ce qui me sort naturellement. Et sur chaque projet, je commence toujours par faire une espèce d'image référence qui, finalement, pourrait très bien être la couve. Finalement, la première chose qui sort, c'est la couverture. Parce que j'estime que quand on fait la couverture, si on arrive à la faire, c'est qu'on sait exactement de quoi on parle. Si on sait pas de quoi on parle, on peut pas faire une couverture. Alors on fait une fille avec des gros seins et puis je sais pas des trucs ou un dessin très beau, mais les choses sont pas très claires. Et donc j'ai commencé à dans les recherches, l'une des premières choses c'était cette image là et je l'ai faite tout simplement en noir et blanc parce que c'est ce qui m'est venu le plus naturellement. Et quand on l'a présenté et qu'on l'a montré, tout le monde s'est dit que bah en fait on allait rester sur le noir et blanc parce que ça convenait au récit quoi. Et c'est venu naturellement finalement. On n'a pas réellement discuté. Ça n'a pas été. Il n'y a jamais eu un moment donné où on s'est dit est-ce qu'on fait de la couleur, est-ce qu'on fait pas de la couleur, est-ce qu'on propose, est-ce qu'on machine. Finalement c'est venu, ça s'est fait comme
voilà.
Ça. Voilà.
C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que souvent les éditeurs ont peur du noir et blanc. Ils disent oui, mais si vous faites du noir et blanc, vous allez moins vendre. Vous vous rendez compte que vous ruinez le potentiel de votre série, blablabla. Et Barbara et Clotilde, absolument pas. Elles ont dit non, mais vous allez pas mettre ça en couleur, ce serait débile. Et donc ça, c'était agréable de sentir que pour elles, c'était pas un problème.
D'accord. Donc voilà. Bon, en plus, bon, vous faites un noir et blanc, mais qui est un noir et blanc quand même très, je veux dire quand même très élaboré, très recherché. Oh, oui. Vous travaillez sur des trames, sur des noirs, des gris. C'est, oh.
Mais donc, pour moi, ça me fait vraiment penser aux films expressionnistes à Murnau, etc. Ouais, il y a vraiment cette espèce d'ampleur dans les images de Bertrand.
Mais moi, je voudrais savoir, Bertrand, ta technique, toi, pour faire ce noir et blanc. Tu quoi? Tu fais, c'est de l'ordinateur, c'est de la planche, c'est comment tu travailles?
C'est de l'ordinateur.
Tu fais tout à l'ordinateur directement?
Ouais. Sur petit, tout a été dessiné d'abord sur papier. Et l'ancrage, c'est-à-dire la mise au propre, a été faite entièrement à l'ordinateur. Et sur le tome 2, tout a été fait sur l'ordinateur.
Même au début,
le dessin.
Ouais.
Alors la seule chose qui est faite maintenant encore sur le papier, c'est le découpage. Voilà, ça s'est fait sur le papier, mais il en reste quasiment rien sur le résultat final, quoi.
Donc pour revenir dans petit et après dans 2100, comme on verra, il y a quand même quelque chose à résoudre qui, à mon avis, devait être quand même pas compliqué, mais réclamer quand même pas mal de sérieux, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages qui apparaissent. Il y a Petit, il y a les Ogres, il y a les personnages, il y a le Chambellan. Il y a quand même pas mal de personnages qui apparaissent dedans. Comment avez-vous pu maîtriser tout ça et puis les faire que finalement ils soient très distincts, quoi?
Bah, alors déjà, l'écriture, sincèrement, je pense que j'ai fait pire. Miss Patouche, par exemple, dans Miss Patouche, il y a, à mon avis, beaucoup plus de personnages que dans Petit. Et après, effectivement, la contrainte, du coup, c'était de les caractériser de façon assez puissante pour que la question ne se pose pas. Et ça, c'est Bertrand qui a fait un travail sur les personnages qui leur a vraiment conféré une grande force.
D'accord. Donc tous ces personnages dont Petit, bon, vont être poursuivis. Bon, alors l'intrigue de Petit, justement, c'est que ce personnage qui est Petit, comment va-t-il survivre, quoi ?
Oui, oui, c'est ça. Et d'une certaine façon, Bertrand avait assez bien défini en disant que c'est un jeune homme qui est digéré par sa famille en permanence. C'est-à-dire, il y a un processus de digestion et il est enfermé presque du début à la fin à l'intérieur de cette espèce de château matrice. Et voilà, et jusqu'à l'expulsion finale. Donc pour moi, il y avait effectivement une espèce de parallèle entre le début où il est expulsé de sa mère et la fin où tout s'écroule et il est expulsé dans le monde extérieur et pour, on espère, une nouvelle existence meilleure pour lui, mais rien n'est sûr.
Alors ben, son combat va quand même être assez rude parce qu'il va falloir que... Donc il est quand même protégé par sa mère finalement parce que normalement...
Et surtout par sa tante DSD, l'étrange DSD qui a des idées bizarres puisqu'elle aime les humains au lieu de les manger.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on est dans un monde d'ogres et pour eux, pour les ogres, comment dire, l'essentiel de la nourriture vient des humains.
Tout à fait.
Finalement, parce que les humains mangent des bœufs, enfin, élèvent des animaux pour les consommer, et les ogres élèvent des humains pour les consommer.
Tout à fait, oui.
Donc, il y a des fermes, il y a des choses comme ça. Donc, cette dimension donne une couleur, enfin, je vais dire une couleur quand même assez rude, assez atroce, parce qu'il y a quand même des scènes quand même de digestion, on voit de démembrement.
Oui, complètement. Ouais. Ouais. Mais c'était aussi intéressant d'avoir ce côté ogre pour que aussi Petit puisse à la fois faire partie de ce monde-là et être un gibier en même temps. Qui est vraiment ce côté pas simplement rejet familial, mais réel danger de tout d'un coup finir à la broche, ce qui fallu lui arriver plusieurs fois à l'intérieur.
Qui va failli lui arriver. Alors, et toi, Bertrand, alors, à partir du moment où vous aviez décidé de faire cet album, vous êtes parti, vous saviez que la pagination était organisée à peu près au début ou pas?
Bah, moi, je viens de l'animation et j'ai une méthode de travail qui est assez proche de celle qui se passe au cinéma ou truc. Donc, moi, je me considère plus comme metteur en scène que comme dessinateur, illustrateur. Et je pars de la base, il y a un espèce de prédécoupage qui était fait par Hubert. Donc voilà, moi j'estime, Hubert disait, j'estime que ça se fait en une page, ça se fait en une page. Et après, moi quand je découpe, bah, globalement je rajoute des pages. Donc là pour Petit, il y a à peu près un peu plus d'un tiers de page en plus de ce qui avait été prévu.
D'accord. Et c'est venu parce que finalement, pour la narration,
oui,
c'était nécessaire.
Oui, c'était nécessaire. Parce que moi j'ai une tendance à découper pour. Parler de ce qui n'est pas dans le texte, donc pour incarner. Et j'ai besoin de plus d'espace pour ventiler, pour rythmer, pour incarner vraiment le.
Incarner de l'émotion.
Ouais. Voilà. Incarner l'émotion, ouais. Alors on voit qu'aussi que dans tes découpages, tu as des planches comme celle-ci où il y a un découpage assez serré, on voit des personnages en haut, en bas.
Alors ça, justement, c'est très, très, très bon exemple parce que c'était la première et ça, c'est trop serré.
C'est trop serré, tu le trouves ?
Ah oui.
D'accord.
Là, la bande centrale avec trois images dans 2 cm², c'est mal.
D'accord, bon, c'est un petit défaut. Ouais. Et par contre, tu as des images serrées comme ça.
Ça, là, c'est après, ça.
Ouais, celle-là, après aussi, elle est quand même intéressante. Parce que
oui.
Pourquoi tu choisis cette forme ? Bon, si on voit bien que le bébé est au centre qui vient et tous les personnages qui sont autour, c'est tous les personnages qui vont interférer sur son avenir.
La réalité, c'est que là, c'est une espèce de... C'est le petit enfant Jésus, finalement. Ouais. C'est le petit dernier de la famille, c'est le fils du roi, etc. Et donc, je suis parti sur une composition... une double référence, c'est-à-dire simplement toute l'attention est fixée sur lui. Donc on a une image qui rayonne et ensuite je l'ai un peu composé comme un vitrail pour la référence aux vitraux de d'église ou de cathédrale, quoi. Donc il y a une double lecture picturale à cette image, quoi.
Ouais, et puis il y a une lecture aussi, je pense, émotionnelle, parce qu'on a cette espèce d'enfant Jésus.
Oui,
qui est complètement comprimé, et puis avec des personnages qu'on voit bien qui lui veulent du mal.
Oui, de prédateurs.
De prédateurs, on voit bien que. Et avec ça, avec ce genre d'image, vous mettez carrément l'intrigue, elle démarre, on voit bien où. Tous les éléments sont là, quoi. Après, ça c'est une planche. Et on va retrouver aussi des planches comme ça, très grandes, comme ça. Alors, quelle est la fonction de cette planche de cette image qui fait une page complète.
C'est des fonctions purement cinématographiques, c'est-à-dire que c'est des moments où le temps doit être suspendu et où on doit marquer sur une impression ou sur une sensation. Donc là, tout est dit par rapport à l'univers. C'est quelqu'un qui se fait servir, qui visiblement est une expression de mépris par rapport ou d'impatience par rapport à ce qui se passe autour. On a le fantastique avec les poulies, etc. C'est tous ces éléments-là qui sont nécessaires pour mettre le lecteur dans un bain jusqu'au bout. C'est important de prendre une page complète. Ça pourrait très bien être, quand on apprend la mort de son père, avoir une page complète plutôt que d'avoir une toute petite case en bas à droite d'une page. C'est d'un seul coup, ça suspend le temps sur une impression et on dit au lecteur, garde ça dans la tête. C'est le parfum de l'album qui va rester tout au long de ta lecture.
Et pour terminer, il y avait aussi sur l'utilisation de ces grandes pages un des enjeux picturaux, on va dire, de l'album, c'est qu'on est dans un monde avec des rapports d'échelle très particuliers parce que certains personnages vont être grands comme ça et d'autres atteignent peut-être plus haut que au niveau de la poutre là-haut. Et du coup, il fallait arriver à mettre tout ça en place et faire sentir que tout d'un coup, ce personnage qu'on croyait grand, finalement, n'est pas si grand parce qu'il y a quelqu'un d'encore plus grand. Donc, tout d'un coup, le mettre en pleine page, c'est donner cette impression d'espace et de gigantisme qui est au cœur de la narration.
Oui, au cœur de la narration. Et moi, quand j'ai...
Excuse-moi, oui. Autre page très particulière. Hubert, quand il avait écrit le scénario, ça c'est une séquence qui devait durer 2, 3 pages, 4 pages. Et moi je me suis dit que ça servait à rien de faire ça en 2, 3, 4 pages. Il suffit simplement de faire une seule image qui tape pour expliquer le truc. Donc voilà, on sait bien, c'est des images finalement qui sont.
Ouais. Mais moi, cette image là, quand je l'ai vue et qui est un peu, suggère le jeu gantiste, ça m'a fait penser aux géants, aux géantes qu'on voit à Nantes et tout ça. Quand nous, on est à côté, qu'on voit ces personnages, on se sent tout petit. On a l'impression d'être dans une échelle qui ressemble.
Ah oui, complètement. Ouais.
Et en plus, celle-là, comme ils sont en train de refaire sa robe, là, on voit plein de fils partout. On a l'impression de voir les personnages qui s'agitent autour et qui, presque fonctionner une marionnette, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on j'avais pas pensé en l'écrivant, mais c'est vrai que
c'est une vision nantaise. Je pense pas qu'on dira la même chose à Bordeaux. Voilà. Donc, cette histoire de petit, elle va avancer. On va voir ça. On va voir un personnage qui va après arriver dans 2100. Donc, et ce petit personnage là, tout petit, il va avoir une vie assez extraordinaire parce que finalement, il va aller à contre-courant de tout ce que lui demande sa famille, de tout ce que impose la société. Il va pas vouloir.
En fait, pour moi, la question centrale du scénario, c'était que il est élevé donc par sa tante, comme je disais, et chaque personne de son entourage a ses propres ambitions pour lui. C'est-à-dire chacun veut de lui quelque chose. Sa tante veut faire de lui un humain, grosso modo, quelqu'un de bien. Sa mère rêve qu'il devienne une sorte de un nouveau roi qui régénère la lignée, etc., etc. Et lui, il a rien demandé. Et ça m'intéressait de parler de ça parce que c'est quelque chose malheureusement que tous les parents ont tendance à faire, les miens comme les autres, qui ont tendance finalement à projeter énormément de choses sur les enfants sans vraiment tenir compte de qui ils sont. Et donc tout l'enjeu du scénario de l'histoire pour Petit finalement c'est d'arriver à se dégager et déjà arriver à comprendre qui il est lui-même et ce que lui-même veut. Ce qui est très difficile quand on est adolescent, pour finalement trouver son propre chemin et sa propre voie de sortie, qui est un peu violente, je l'admets.
Il y avait une chose intéressante aussi dans cette histoire qui est assez fondatrice de l'album et de l'univers, c'est que les géants, on ne sait pas très bien d'où ça vient. C'est un personnage qui est arrivé par hasard dans la vallée.
Tout à fait,
ouais. Ouais, qui a eu un enfant qui est devenu un géant, quoi, voilà.
Complètement, ouais.
Ouais, donc, qu'est-ce que vous avez voulu signifier par cette chose? Par cette par ce manque d'histoire de ce personnage, de cette chose.
C'était pas réfléchi, en fait. Il y a une sorte de logique poétique, je dirais. Alors, par rapport à la logique, je dirais, génétique, puisque il y avait quand même ce petit côté génétique qui m'intéressait, c'est de dire, voilà, il est porteur d'un gène qui est compatible après avec les humains, et ce gène-là prend le dessus et a une espèce de capacité exponentielle comme ça, et finit par l'épuisement finalement. Donc il y a cette courbe là qui est avec Petit. Donc il y a un moment dans l'album où c'est dans une des histoires où on atteint le sommet avec le plus grand de tous les géants. Et c'était plutôt cette logique là. Donc et de se dire que finalement Petit est la fin de la courbe, mais qui est aussi la potentialité de la reprendre au début. Donc il y a ce côté de cyclique qui m'intéressait. Après voilà, j'ai pas forcément réfléchi plus loin, mais voilà.
Alors maintenant, sur un plan purement graphique, Bertrand, quels sont toi les problèmes que tu as, les problèmes, quels sont, oui, les problèmes qui sont posés à toi et que tu as dû résoudre justement pour obtenir ce noir et blanc qui est quand même, qui est presque de la couleur, parce que finalement il y a des dégradés, il y a plein de choses.
Oh oui, c'est pensé comme de la couleur. Oui.
C'est pensé comme de la couleur, quoi. Tu veux une autre planche peut-être ?
Ce qui était souvent complexe, c'était les images, par exemple, comme l'image d'avant.
Pardon.
Voilà, là, quand elle déambule dans la cathédrale, sur le strip central, l'image de droite, le noir est également utilisé comme valeur de lumière, comme éclairage, donc comme ombre. Et c'est les images qui sont les plus complexes, parce que souvent j'utilise le noir comme une couleur. Et là, elle est utilisée également comme une valeur lumineuse. Voilà, mais c'est des images les plus complexes. Sinon, le reste, c'est très simple. En fait, je cale mes images, je fais une passe d'ombre globale pour orienter la lumière, pour toujours éclairer ce qui a besoin d'être vu. Après, je pose le noir pour équilibrer l'image et volontairement, je mets des choses qui sont noires qui ne le sont pas pour boucher l'image à des endroits pour orienter le regard à d'autres. Et ensuite, il n'y a pas de chose particulière à rajouter.
Est-ce que le fait d'avoir fait beaucoup d'animation
a
influencé justement ton travail
En fait, mon travail, moi, en animation, il est surtout en créateur d'univers et de personnages. Donc j'ai réalisé un petit truc parce que j'ai créé ma série, mais j'ai jamais travaillé réellement dans des équipes dans la fabrication d'une série, parce que moi je suis en amont. Je suis au moment où avant que le projet soit financé. Donc je crée des personnages, et une fois que c'est créé, j'aide les équipes à les modéliser et à les rendre à les finaliser, mais je travaille jamais sur le produit fini. Donc en fait, très bizarrement, les seules expériences que j'ai eues en termes de découpage en animation, j'ai fait des choses qui étaient vraiment pas bonnes, qui étaient chiantes, et je me suis rendu compte que j'avais une vision du découpage qui était évidemment d'une certaine manière inspirée aussi par le cinéma, mais qui a toute sa forme et toute sa logique en BD et moins en anime. Je pense que je ne serais pas un bon réalisateur d'animation.
D'accord. Voilà. Donc cet album terminé, donc vous, on va essayer de découvrir aux gens. Donc vous avez eu tout de suite l'idée du deuxième épisode. Enfin, je ne vais pas dire un deuxième épisode.
Deuxième histoire.
Une deuxième histoire qui va démarrer avec le personnage qu'on voit central, qui va démarrer là, qu'on a déjà vu dans l'album précédent,
oui,
puisqu'il était le chambellan. Donc, alors, dans cette deuxième histoire, quel a été le projet ? Parce qu'il fallait quand même, on est dans un univers similaire, on va retrouver un personnage comme ça, mais on part sur une histoire complètement différente. Une histoire qui est plutôt... allez, on va reprendre Rastignac, quoi.
Oui, tout à fait. Mais alors, l'histoire de cette deuxième histoire, on va dire, en fait, on était en pleine production de Petit, à ce moment-là, qui était absolument pas fini. On était peut-être d'ailleurs encore plus ou moins, je sais même plus à quel stade on était. Et donc c'est une de nos éditrices, Clotilde, qui se dit vous ne feriez pas autre chose dans le même univers, c'est vraiment dommage. Vous ne feriez pas l'histoire des triplés. Moi je suis là, non mais ils sont morts, c'est quoi l'intérêt? Oui non mais Hermione, tu veux pas faire... Non mais Hermione, c'est bon, j'ai raconté son histoire. Allez, on connaît sa naissance, on connaît sa mort, j'ai pas envie quoi. Et non mais c'est dommage. Et en fait, il s'avère que l'histoire de Petit à l'origine était encore plus vaste, puisque on sortait du château, on descendait, etc. Et qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait resserrer un petit peu. Donc, il y a eu plein de scènes que j'avais écrites qu'on a coupées au montage. Et il s'avère que le personnage du chambellan, donc qui se fait comme ça par la maman à un moment donné, était un personnage qui avait beaucoup plus d'importance. Et donc, il était coupé. Mais j'avais plein de scènes avec lui qui finalement avaient été éjectées et qui étaient des scènes que j'aimais bien. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, ces scènes pourraient devenir autre chose. Surtout qu'en plus, c'est un personnage dont on avait pas mal parlé avec Bertrand ensemble. Et Bertrand avait dit, oui, mais finalement, moi, je verrais bien un mec assez séducteur. Et donc, on avait commencé déjà à fantasmer sur ce personnage. Et il avait un design déjà qui était très poussé. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai ces scènes-là. J'ai un personnage qui est déjà existant, qui est un peu bizarre, un jeune beau gosse qui est déjà arrivé tout en haut du sommet. C'est pas normal. Et voilà. Donc du coup, j'ai commencé un peu à fantasmer sur ce personnage et très vite, l'histoire est née autour, en me disant aussi, ce qui m'intéressait, c'est, voilà, on a un monde totalitaire, avec une caste de géants absolument indélogeable. De quelle façon cette structure de pouvoir a modelé la société dans les étages inférieurs, en fait. Et comme ces géants n'ont pas de contact direct avec les humains, puisque finalement ils s'en foutent, à part au moment où ils sont dans leurs assiettes, il y a forcément une caste qui gère, voilà, une administration qui gère en fait toutes les affaires humaines et le royaume, puisque les véritables dirigeants ne s'en occupent plus. Et c'est à partir de là où j'ai commencé effectivement à imaginer tout ça, enfin tout ce monde en dessous, et le parcours de ce jeune homme qui en fait n'a pas sa place dans ce monde-là. Et a d'autant plus de choses à prouver. C'est vrai que j'avais une inspiration qui est un de mes personnages favoris de l'histoire, qui est Talleyrand, le diable boiteux, le plus grand, peut-être le plus grand diplomate et le plus grand politique de l'histoire de France, avec une réputation extrêmement sulfureuse et qui est tout à fait justifiée. Et voilà, et donc ça a commencé un peu à infuser à partir de là.
Donc ce personnage, donc, alors pourquoi demi-sang déjà, on va expliquer.
Demi-sang en fait parce qu'il est en fait c'est un bâtard en fait. Donc il y a comme on est toujours sur des notions un peu génétiques, ce que j'avais envie de conserver, il y a une caste de dirigeants qui descendent de très loin et qui sont les nobles nés. Ouais, donc il y a cette notion de sang pur. Et lui, en fait, est un sang impur puisque sa mère est une courtisane et pas l'épouse légitime. Donc, il naît effectivement dans un univers doré, mais il n'est pas légitime. Et à cause de ça, il va chuter jusqu'en bas, jusqu'au bas fond. Et à partir de là, il va vouloir prouver qu'il vaut autant que les autres, voire mieux.
Et donc, il vaut mieux que les. Enfin, il va essayer de prouver ce qui. Il va essayer d'arriver au sommet.
Oui, mais pour
c'est
ça,
c'est quand même la conquête du pouvoir que tu racontes.
C'est la conquête du pouvoir, mais c'est aussi le prix de la conquête du pouvoir.
Oui, bien sûr.
C'est le pouvoir, mais à quel prix ? C'est-à-dire
à quel prix ?
Alors j'ai une petite expérience en politique, puisque j'ai été syndicaliste, j'ai participé à des négociations ministérielles en tant que représentant des auteurs pour changer le code de la propriété intellectuelle, donc la loi française. Et c'est vrai que j'ai côtoyé comme ça des politiques syndicaux, des gens où on se dit waouh, super, et petit à petit on les voit changer parce qu'il y a des opportunités, voilà, c'est super, je vais pouvoir aller vers là si j'accepte, et on les voit s'arrondir et on les voit finalement devenir un peu le contraire de ce qu'ils étaient et de ce qui presque leur a permis d'arriver là où ils sont. Et voilà, et du coup toute cette expérience politique, vécu, j'avais envie aussi de m'en servir à l'intérieur et de montrer un peu tout ça.
Ouais, ce qu'on constate aussi dans cet album, c'est qu'il va se servir des femmes. Il va servir de sa mère,
des femmes, des hommes, de tout ce qui passe. Hein, de toute façon,
en particulier, quand même, de femmes pour essayer de.
Oui, bien sûr. Ouais. En fait, à la base, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est que c'est un personnage de séduction qui commence très bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sulfureux. C'est une sorte de gigolo en fait à la base, mais qui est suffisamment intelligent, suffisamment manipulateur pour se servir des bonnes personnes. Finalement, passe son temps à feindre des sentiments au point où on ne sait plus s'il en a réellement.
D'accord. Et pour toi, Bertrand, alors, d'attaquer, bon, tu avais fini le premier album, deuxième album, est-ce que toi, tu as envisagé, un traitement un peu différent, à l'aune et à l'expérience du premier album, qu'est-ce que tu as pu faire évoluer dans ton dessin et dans la manière de traiter l'album ?
Pas grand chose, parce qu'en fait je l'ai abordé de la même manière. Au contraire, c'était plus confortable pour moi puisque les bases graphiques étaient posées. Non, c'était juste ce qui était difficile pour moi, c'était de tenir la baraque en fait, parce qu'il y avait un certain niveau graphique sur le premier et je pouvais pas être en dessous, et pour le troisième ça sera la même chose. Donc oui, l'idée c'était vraiment de tenir et d'exprimer le. Parce que dans Petit, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on est dans une aventure qui est plutôt viscérale. Et donc je considérais comme on le disait tout à l'heure, pour moi il était digéré par son environnement, par sa famille, par son contexte. Et donc à chaque fois que j'avais dans la mise en scène, ce que j'avais à l'esprit, c'était que les décors étaient un peu pétés, que tout était un peu mouvant, que tout était gluant, que tout était noir, sombre, voilà. Et là, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait que les décors expriment le pouvoir, la richesse.
Parce les que apparences.
C'est ça, bon, les apparences, parce que c'est ça le fond de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il y a des pages qui sont très chargées en détail.
Oui, bah comme on voit là.
Pas par plaisir du détail, mais par nécessité narrative.
Et d'ailleurs, dans ta mise en scène, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un motif récurrent qui est le rideau, en fait, dans cet album-là. Ouais.
Bah ça c'est venu au fur et à mesure, en fait, c'est venu naturellement sur le, en faisant le découpage. D'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des mises en scène qui venaient naturellement avec le rideau. Donc là, par exemple, la première image, il sort d'un rideau, et au fur et à mesure, dans l'album, il y a plein de choses qui n'étaient pas écrites par Hubert, mais qui finalement, en suivant la logique de l'histoire, se sont imposées à la mise en scène, quoi.
Et dans cet album, Demi-Sang, on s'aperçoit aussi que vous utilisez le système des flashbacks par moment. Oui. Il y a des retours en arrière. Oui. Et vous avez aussi réutilisé 4 planches du premier album.
Alors, tout à fait.
Donc, expliquez-moi la raison de. Est-ce que c'est parce que tu voulais pas les redessiner ou vous voulez
si, à la base, je voulais les redessiner. Mais... Je voulais les remettre en scène. Et en fait, je me suis rendu compte que là, pour le coup, c'était pas possible de les remettre en scène pour une simple raison, c'est que la principale problématique quand on met en scène des géants et des humains, c'est la différence de taille. Et j'aurais refait le même découpage parce que de toute façon, je pouvais pas le montrer d'un autre point de vue. Ouais. Puisque pour montrer un personnage qui fait 30 mètres de haut avec un personnage qui fait 1m70, on peut pas placer la caméra à 1500 endroits différents.
D'accord.
Donc, ouais. Pour la même histoire, en tout cas, pour raconter la même chose. Donc finalement, ça c'est resté sur cette page-là, tout simplement. Voilà.
Et effectivement, il y avait ce principe des chutes. Ce qui m'intéressait, c'était ce croisement entre les deux histoires. C'est que finalement, dans cette deuxième histoire, les géants sont un peu la némésis de ce personnage-là qui est en conquête pour la montée du pouvoir, mais la dernière place de l'écosystème est déjà occupée et malheureusement pour lui, il n'a pas beaucoup de chance de pouvoir vaincre réellement ces gens-là, en fait.
Non, pas encore, parce que bon, Demi-Sang est construite à peu près donc dans le précédent, on voyait la trame de la famille. Là, dans la trame, les personnages, les histoires sont l'histoire des différents chambellans. Chambellan, c'est ce personnage que tu expliquais tout à l'heure, qui est le personnage intermédiaire entre les noble-nés.
Complètement. Ouais, et en fait, à l'origine, le chambellan, c'est celui qui garde la porte, en fait.
Ouais, ouais.
Donc, il garde le passage d'un monde à l'autre. Et comme finalement, les humains, au bout d'un moment, n'ont pas été très loin à l'intérieur du château, c'est lui qui a pris le pouvoir. Il est devenu l'interface naturelle entre les deux mondes. Et du coup, c'est une sorte de... entre un roi et un super premier ministre.
Ouais, c'est ça. Mais un personnage qui est... Parce que finalement, c'est lui qui dirige, finalement. C'est lui qui fait les lois. Qui fait les lois et se contente de satisfaire les noble-nés, de satisfaire leurs caprices, leurs exigences.
Tout à fait.
Entre ça, c'est lui qui a réellement le pouvoir, qui fait les lois, qui organise. Et c'est un personnage qui...
Mais à partir de l'instant où il rentre dans le château, il peut lui-même redevenir une proie. C'est
ouais,
en fait ça
sûr.
Qui m'intéressait. C'est de dire, t'es peut-être le plus puissant du monde des humains, mais une fois que tu passes de l'autre côté... ta puissance ne veut plus rien dire, finalement.
Ouais, parce que les personnages s'appellent quand même les ogres dieux.
Tout à fait, oui.
C'est pas vraiment des humains. Et puis il y a la notion de dieu qui est quand même oui. importante dedans. Parce que
des dieux qui se sont autoproclamés dieux.
Oui, oui, d'accord, mais ils ont quand même le pouvoir. Ils sont
tout à fait, ouais.
Ils ont le pouvoir. Donc dans ce deuxième album, vous allez raconter l'histoire de ce personnage qui va essayer de conquérir ce pouvoir à travers les femmes.
Il va y arriver, il va y avoir
plein
d'aventures.
Et d'autres
manipulations politiques.
Une autre manipulation politique, ouais. Et donc son parcours va être quand même très compliqué, très difficile. Il va être très arriviste. Voilà, donc toi, c'est quand même quelque chose que tu voulais raconter sur ce personnage,
oui.
sur le monde actuel. Et bon, on peut faire le parallèle avec plein de choses de l'actualité.
Et puis de toute
quoi.
Façon, comment dire, ce personnage existait, même s'il existait de façon très succincte, il avait déjà des qualités propres dans ce premier album. Déjà dans le premier album, c'est lui qui d'une certaine façon fait un croche-patte à la reine et à Hermione et la détruit. Donc je me disais, mais qui peut-il être pour faire ça? C'était j'adore ça, c'est-à-dire d'avoir une énigme, d'avoir à l'intérieur d'un album une question que je me pose et de me dire, bon, maintenant la problématique de l'album, ce sera de résoudre, de dire, mais pour en arriver là, quelle est l'histoire de ce personnage, quel est son background pour arriver à faire ça. Donc forcément, pour arriver de la part d'un humain à manipuler des géants, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, etc. Donc il fallait effectivement que tout ça soit cohérent.
Quand on regarde les images et qu'on regarde son visage, on a le côté un peu... Il a un côté angelot.
Tout à fait,
Il est mignon, j'ai mis démon, quoi, finalement, dans sa manière d'agir, quoi.
Oui, tout à fait,
ouais. Ok. Donc, eh ben, je vous invite à suivre cet album. Maintenant, on va parler un peu si vous avez un troisième projet autour de l'univers des Ogres Dieux.
Alors, en fait, effectivement, j'ai terminé l'écriture de la troisième histoire cet été, juste avant de partir en vacances. Et c'était un soulagement parce que ça a été probablement ma pire expérience d'écriture de ma vie. Parce que j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire avec 15 versions successives. Où Bertrand, chaque fois, voyait les versions, il faisait c'est pas bon. Ouais. Et il avait raison, hein, c'est ça le pire, c'est que c'est un très bon lecteur. Autant il avait été hyper enthousiaste sur les 2 premières histoires. Moi j'attendais toujours qu'il fasse ouais, super, on y va. Et il faisait non. Et voilà. Et donc c'est à peu près la 12e version où il a commencé à faire ah là, ça devient intéressant. Donc il avait vraiment, j'ai jeté des carnets entiers d'écriture, enfin tout. Pour enfin, mais il y avait toujours des petites choses qui se dégageaient. Et finalement, c'est au cours de ces différentes, j'étais parti sur une mauvaise piste. Et dans ces 12 versions sacrifiées, il y a des personnages qui petit à petit sont sortis. Et c'est un personnage secondaire qui finalement a pris de plus en plus de place et qui maintenant est, au bout d'un moment, je dis bon bah faut que je réécrive tout du point de vue de ce personnage-là parce que bah c'était lui le personnage principal finalement. Je ne le savais pas, mais c'est ce qu'il fallait faire.
Que pour la petite histoire, t'étais le seul à pas savoir que c'est bon. Pour moi, dès le début, c'était celui-là le personnage principal.
Non, mais je
ne
savais pas.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'était ce personnage-là qui était évident, le nœud central de toute l'histoire, avec plein d'autres histoires autour. Et moi, je comprenais pas. Je disais mais
pourquoi il tourne autour
fois, on disait mais non, mais peut-être qu'il faudra enlever celui-là, peut-être qu'on enlève celui-là, et puis. Et ça a mis du temps, mais.
Ah oui, non, mais c'était horrible.
Par contre, moi, c'est mon scénario préféré.
Le prochain.
Ouais.
Mais c'est un truc très bizarre, enfin, la façon dont le cerveau fonctionne. Hein. C'est toujours des grandes interrogations. Mais je me souviens, je crois que c'était sur le Legs de l'alchimiste ou quelque chose comme avec Hervé Tancrel. Ouais. Et donc, j'avais raconté une histoire, je sais plus quel tome. Et à un moment donné, j'ai une espèce de flash de révélation incroyable. J'appelle Hervé super excité en disant ça y est, j'ai compris ce personnage, il est comme ça parce que non. Et Hervé reste un peu atterré et il me dit mais. Tu me l'avais déjà raconté la première fois qu'on avait parlé de cette histoire, des mois avant. Et moi, j'étais en train juste de galérer sur l'écriture du personnage depuis hyper longtemps. Et il me fait, mais tu me l'avais dit dès le début. Je fais, t'es sûr ? Bah oui. Et voilà. Et donc, bah, souvent, c'est ça, en fait. On oublie des choses où il y a des évidences dans l'écriture et on est les seuls à pas les voir, en fait. Mais jusqu'au moment où voilà, ça se débloque et là, effectivement, ça part, quoi.
Ouais, je vais revenir sur quelque chose. Quand on fait des albums comme ça, qui font 180 pages, je sais pas quel chiffre de vente du premier, mais enfin, c'est quand même un succès.
Ça commence à être sympa.
On peut appeler ça un succès. Donc, on fait le deuxième. Et là, vous illustrez bien le fait que quand on fait des albums comme ça, qui ont chacun une autonomie, il faut quand même se remettre en cause à chaque album pour ne pas tomber dans quelque chose qui deviendrait un peu mièvre
ou tout simplement
quelque chose de pas très.
C'est aussi pour ça qu'on était parti dès le début. On s'était dit qu'on allait faire que des histoires bouclées pour pas prendre le lecteur en otage déjà. Petit 1, parce qu'on sait qu'on met du temps à produire les albums, donc en tant que lecteur, c'est une expérience qui est très désagréable. Donc on voulait pas se foutre de la gueule du public. Et petit 2. Pour qu'on puisse, nous, ne s'enlever une épine du pied, à savoir être obligé de faire une suite sur un sujet qui est vide. Donc, ouais. Par exemple, là, si on s'était dit on faisait une suite, on racontait, pour ceux qui l'ont lu, si on avait raconté l'histoire de Petit, il faisait quoi ? Il allait à la ferme,
il avait
un enfant, à la plage, bon, c'est loin la plage, mais il aurait pu construire une cabane dans les arbres. Donc il y avait rien à raconter
dans
l'immédiat.
Non, mais là, en plus avec ce genre d'album et ce genre d'aventure de créateur et d'auteur, on s'aperçoit que même si c'est de la bande dessinée, que la série est quelque chose de très difficile à tenir sur
tout
le temps,
fait, ouais.
Par rapport à une époque. Hein, maintenant la série.
Et même on le voit dans les séries télé, etc. Où souvent on a un truc génial au début et puis arrivé à la saison 3, on fait mais pourquoi est-ce que je continue à regarder ce truc-là
encore. Donc finalement c'est pour satisfaire le lectorat qui est de plus en plus exigeant. On se rend compte que quand on fait des albums qui sont vraiment avec une volonté de faire un travail d'auteur. Ça peut être bien réalisé, il peut y avoir des défauts, mais s'il y a vraiment une âme derrière et vraiment une sincérité, je pense que le public réagit bien.
Ce qu'on essaye de faire. Et en fait, l'idée, c'est comme, c'est là où le concept est excitant pour moi. C'est comme une sorte de méga jeu de construction où chaque pièce, effectivement, est très élaborée, mais peut se mettre comme ça et fait quelque chose de plus vaste. Mais chaque pièce est indépendante et comme ça, on peut arrêter à tout moment. Si on commence à s'ennuyer, etc., on peut dire. C'est bon, on a mis une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, je ne sais pas combien il y en aura. ça forme une figure qui est peut-être un peu déconstruite et bizarre, mais voilà, ça se suffit en soi. Ouais. On n'est pas obligé d'aller vers une fin ou.
Toi, Bertrand, t'as d'autres cordes, enfin, des cordes à ton arc. Tu as aussi, t'avais fait des séries jeunesse comme Pistouvi, Jeanne, et je pense que t'as un projet qui va sortir bientôt. Quelle est la différence quand tu travailles à une bande dessinée ou que tu fais des dessins pour la jeunesse, tu travailles aussi chez Bayard? Ton approche graphique, ton approche, elle est différente?
Bah, le fond du dessin est toujours le même, sauf que là, sur les Ogres Dieux, on lâche les chevaux. Et sur les autres, on lâche pas les chevaux.
Ouais, on se retire un peu, quoi.
Voilà. Donc,
et ceci dit, effectivement, ce qui est intéressant, surtout dans Petit, c'est que tu étais parti pour lâcher beaucoup plus les chevaux encore au début.
Oui, j'avais fait pire. Ça a été recadré par.
Heureusement, parce qu'en fait,
nos éditrices, il y avait des images bien pires.
En fait, je me souviens surtout qu'on avait parlé du découpage avant même qu'ils fassent les images. Avec nos éditrices, on a dit voilà, on fait un projet ado adulte, voilà. Et donc je donne mon scénario écrit à Bertrand et donc il fait son découpage et un jour on se retrouve et il me montre son découpage alors qu'il était un peu patatoïde, donc il m'expliquait des fois et on arrive sur donc la séquence du papa et de la cousine.
Oui.
Et là il me dit et voilà et donc et là c'est le sexe du papa en érection.
Il y avait une pleine page frontale.
Ouais, non, qui était en fait un bandeau en bas. Je fais.
Il y a eu une version avec une page.
Non, c'est après. Et après, donc, et je fais. C'est peut-être pas nécessaire. Je fais. T'as raison. Faut faire une pleine page. Je fais. Je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire. Et il fait. Mais si, c'est le centre de la thématique quand même. Et, bah, et là, en fait, nos éditrices ont fait comme ça.
Ouais, on a trouvé d'autres solutions.
Voilà. Ouais, bah, c'est bien.
Bah, par exemple, dans le pour éviter d'avoir montré la pénétration, parce que pour le coup, moi, je veux pas montrer du gore pour montrer du gore. Un mec qui fait 40 mètres de haut et qui pénètre une nana qui en fait 3.
Ça va pas bien se passer.
On sait pas ce qui reste de la nana à la fin de l'action. Et ouais. Vu qu'à la fin de la scène, elle est encore en vie.
Oui,
et en fait, j'ai évité la pénétration par la symbolique du pouce dans la bouche, qui est exactement la même, voire plus violente, puisqu'on a et l'expression d'étouffement et de pénétration. Il y a vraiment la symbolique du viol. Je suis passé par cette idée de mise en scène où il lui enfonce le pouce dans la gorge, et à la fin, voilà. Même ça, il y avait des petits détails qui étaient un peu pires et qui ont été rééquilibrés après.
Ouais, okay. Parce qu'effectivement c'était pas gratuit ce que faisait Bertrand, puisqu'effectivement c'était parler d'une société patriarcale avec la culture du viol, etc. Donc il fallait le faire, mais il fallait quand même trouver un moyen de dire bon, il faut qu'on puisse que ça puisse être lu par un gamin de 12 ans sans tomber dans un truc pornographique, ce qui n'était pas du tout notre but. Donc voilà, il a fallu trouver un équilibrage subtil de ne pas affaiblir ce qu'on voulait dire, l'émotion qu'on faisait passer, sans après tomber dans un truc un peu gratuit. Quoi.
Ouais. Bon, moi j'ai plus rien à dire sur Petit.
Nous non plus.
Bon, alors maintenant, mais je voudrais que Hubert me dise un petit mot. Par exemple, sur cet album qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle Monsieur Désir. C'est pas de la SF, mais
non, c'est
quelque
chose. Pas du tout de la SF.
J'aimerais que tu me dises 2-3 mots là-dessus.
Alors, c'est sorti il y a un mois, donc c'est avec une dessinatrice qui s'appelle Virginie Augustin, qui est également une très grande dessinatrice.
Oui, une très très bonne dessinatrice.
Voilà, j'ai la chance de travailler avec des très grands dessinateurs et dessinatrices. Et en fait, c'est, pour moi, Monsieur Désir, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes qui auraient jamais dû se rencontrer. C'est en fait, on est dans l'époque victorienne, au tout début du règne de la reine Victoria, qui est pas la fin, parce qu'on connaît plus l'époque de Wilde, tout ça. Et en fait, la particularité de cette époque-là, c'est que la société victorienne était encore très libertine, dans le sens de société 18e libertine. Il n'y a pas eu la Révolution française qui a coupé tout vraiment net comme en France. Et dans cette société où il y a une noblesse extrêmement décadente, il commence à y avoir un petit peu un retour de bâton. Et donc il y a un jeune noble qui s'appelle Édouard, c'est lui, qui a une réputation extrêmement sulfureuse, laquelle est justifiée, qui est un viveur, enfin voilà, un homme à femme et on peut dire un chasseur, et qui est très blasé. suite à un concours de circonstances, remarque une jeune bonne au physique
soubrette.
Un peu
ingrat. Une soubrette.
Une soubrette, au physique un peu ingrat, qui s'appelle Lisbeth. Laquelle, en fait, porte sur lui un regard sans jugement, finalement. Et ce qu'il dit, un regard de madone. Et à partir de là, il est fasciné par ce qu'il prend pour de l'innocence. Et il veut tester, en fait, dans un jeu un peu pervers, les limites de cette innocence. Et il décide de la prendre pour confidente et de tout lui raconter, donc toute l'histoire de sa vie sexuelle, qui va très loin. Et évidemment, le fait que ce lord, le chef de la maisonnée, choisisse une bonne qui est tout en bas comme confidente, met en péril tout l'ordre social, puisque tout d'un coup, il en fait une personne, c'est-à-dire son égal. Et à partir de là, toute la hiérarchie va rentrer en combat contre cette femme pour essayer de la détruire et l'éjecter de l'ordre social. Donc voilà, c'est un peu le pitch général. Voilà.
Bon, on va conclure là, parce que je vous invite à découvrir, pour ceux qui connaissent pas Petit et Demi-Sang, qui sont quand même des magnifiques albums. Et si vous avez, il n'y a pas que la SF, et Jérôme a trouvé cet album vraiment remarquable et d'une finesse et d'une intelligence, voilà, à découvrir. Merci.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions?
Y a-t-il, ouais?
Moi, j'avais une question sur l'époque que vous avez choisie.
Oui,
une espèce
dans,
de médiéval, ouais, pour oui, Petit, ouais. Médiéval, je veux savoir, parce que à cette époque-là, notamment à l'époque médiévale Renaissance, c'est là qu'on a commencé à voir les problèmes de dégénération, hein, sur les portraits des rois. Il y a beaucoup d'études.
Tout à fait, oui.
Et je veux savoir s'il y avait un lien.
Ah oui, effectivement, je vais montrer tout de suite les portraits des Habsbourg, etc., qui sont j'adore. Notamment, il y a aussi, oui, voilà, il y a les Habsbourg qui sont géniaux, et il y a toute la dynastie de Prusse aussi. Où il y a j'avais un bouquin sur la cour de Prusse, et c'est génial. On a des espèces de têtes improbables avec des costumes partant du Moyen Âge jusqu'au 18e, et ils ont tous des gueules atroces. Et on voit comme ça des traits qui se perpétuent de génération en génération. Et ça faisait partie effectivement de la réflexion. Mais pour moi, en fait, dans cette époque, il y a un peu une forme un peu uchronique presque dans l'époque, puisque pour moi, en fait, finalement, la temporalité du haut du château n'est pas la même que celle du bas. C'est-à-dire, en fait, en bas, on est quasiment au 18e, ou peut-être même au 19e, parce que le pays est très reculé. Mais, en fait, les géants sont tellement passéistes qu'eux vivent encore au Moyen-Âge. Puisqu'en fait, ils se soucient pas des modes, etc. Et le temps passe beaucoup plus lentement là-haut qu'en bas.
Et j'avais une deuxième question. C'était que j'étais très surprise quand vous aviez dit que ça pouvait être lu par des enfants de 12 ans. Parce que j'ai trouvé que la sexualité était quand même très 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 présente dans l'auteur, et la sexualité, mais dans pas forcément que le côté l'acte, mais vraiment même dans le rapport à la mère, dans le rapport entre les gens entre eux, très tordu.
Alors souvent on sous-estime les compétences de lecture des jeunes lecteurs. Ça même, c'est pas souvent, c'est même
tout à
permanent.
Fait.
Et en réalité, même s'ils mettent pas des mots sur ce qu'ils lisent et ce qu'ils ressentent, ils comprennent très, enfin ils savent qu'ils ressentent quelque chose.
Ouais.
Non, mais oui, non, oui. Je vous réponds, voilà, je sous-entends pas que machin, mais sous.
Bien sûr.
Il y a un truc très bête, c'est que moi j'ai une petite filleule qui a 5 ans, et visiblement Petit lui fait beaucoup d'effets parce qu'elle le lit à la lampe torche sous la couette le soir.
Voilà.
Donc, alors que c'est quand même relativement violent pour une enfant de 5 ans. Mais il se passe des choses dans ses yeux, dans son rapport, etc., qui la font vibrer, quoi.
Et nous, on a eu un peu aussi une surprise l'année dernière, c'est que on a appris à un moment donné qu'on était sélectionné pour un prix jeune lecteur en Rhône-Alpes. Alors j'étais un peu genre jeune lecteur, j'étais un peu presque mal à l'aise. Donc on a été les rencontrer dans les classes, et là on a été hyper surpris. C'était très marqué, c'est-à-dire soit il y avait des gamins qui détestaient le bouquin, mais vraiment avec une violence, c'était incroyable, et d'autres mais qui étaient à fond en disant mais enfin un bouquin qui parle de nous et pour nous, quoi. Et du coup on a gagné le prix à la fin, et dans une salle mais qui était très clivée, c'est-à-dire il y avait vraiment quand on a entendu que c'était nous, en fait on a entendu la salle qui hurlait littéralement, qui s'est mis à scander le nom de l'album, c'était bizarre. Et il y a des gamins qui sont venus nous voir après en disant je me suis battu pour votre album, j'étais le seul de mon école à aimer le bouquin, tous les autres disaient que c'est nul, non c'est génial, j'adore votre album. Et il y avait vraiment une... Il s'était approprié l'album. Ça avait généré des discussions parfois assez violentes. Et c'était, ouais, c'était incroyable. Et là, on s'est dit, mais on s'en est pas rendu compte en le faisant, mais on a écrit un teen book, en fait, mais sans le savoir. Et en même temps, après, en y réfléchissant, je disais, effectivement, c'est logique, puisque d'une certaine façon, je parlais de moi à l'âge de 15 ans. Voilà, ça parle aussi beaucoup d'une façon métaphorique de ce que j'étais à 15 ans.
Et après, il y a souvent les limites, c'est les parents ou les responsables qui les mettent, quoi. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de... Il y a des sujets qui sont plus difficiles à appréhender, mais là, vu qu'on est dans le fantastique et qu'on est dans le symbolique, d'une certaine manière, les enfants, ils le prennent aussi comme ça, quoi.
Tout à fait.
Et, ouais. Et ils ont cette capacité émotionnelle à comprendre l'intention sans forcément pour autant comprendre la finesse du discours, le nombre de choses qu'on a vues tous quand on était petits en se disant « Ah, j'adore !» Et avec le recul, quand on le regarde, on fait « Mais c'est horrible !» Parce qu'on comprend les implications que ça
oui,
a.
Oui, oui. Ou des scènes qu'on a lues quand on était petit et d'une façon totalement candide et on les relit des années après et on fait mais c'est chargé de sous-entendus sexuels qu'on n'avait évidemment pas vu
et c'est ce qu'on avait ressenti.
Mais oui, on pouvait être un peu troublé mais on comprenait pas réellement pourquoi et c'est ça qui est intéressant en fait. Moi je sais que il y a un bouquin que j'ai fait qui s'appelle Beauté qui a été prépublié dans Spirou et en fait qui est la thématique principale, c'est le désir en fait. Le désir et donc la sexualité. Et en fait, tout le jeu, c'était ça, c'était d'être entièrement en sous-texte. Et j'ai plein de lectrices qui ont 8 ans, qui adorent le bouquin. Et suivant après, quand elles grandissent, à 12 ans, elles ont déjà plus vraiment le même regard. Et à 14 ans, elles comprennent des choses qui sont effectivement en sous-texte. Et donc voilà, c'est hyper intéressant dans ce type d'écriture d'avoir ça.
D'autres questions? Bon bah merci,
vous remercie,
en tout cas d'avoir été là, de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup. Au revoir
et bonne soirée.